Chapitre 33. Les témoins. Le procureur général des États-Unis peut accorder des mesures de protection à un témoin dans un procès relatif à une activité criminelle organisée s'il estime que le témoin risque d'être victime de violences ou de mesures d'intimidation. Article 3521 du titre 18 du Code des États-Unis. Frigorifiés d'être restés trop longtemps sur le banc, Madeline et Danny avaient repris leur marche le long du quai. Malgré le froid, les berges de l'East River étaient loin d'être désertes. Équipés d'épuisettes, de seaux en plastique et de cannes à pêche, un groupe de grands-pères se félicitait d'avoir trouvé un coin poissonneux juste en face de la skyline de Manhattan et sortait à un rythme effréné des bars rayés, des sols et des petits flétans. Ils parlaient polonais, russe, espagnol. Le melting pot dans ce qu'il avait de meilleur. Au début, expliqua Danny, j'ai répondu à Alice que son idée de programme de protection des témoins était naïve et irréalisable. Je n'avais rien à échanger, aucune bille dans mon jeu. Mais elle insistait. Je suis sûr que tu peux te servir de ceux qui te coincent dans cette vie. Cette réflexion a fait son chemin. Aux États-Unis, on était à quelques mois de la présidentielle et la lutte contre la drogue était l'un des thèmes de campagne. Tous les candidats parlaient du Mexique, où la guerre des cartels avait déjà fait une dizaine de milliers de morts. Les Américains s'inquiétaient de la montée de la sécurité près de la frontière. L'élection d'Obama a marqué un tournant lorsqu'il a reconnu la responsabilité de son pays dans le trafic en tant que principal pays consommateur. Avant même son investiture, il a rencontré son homologue mexicain et les deux pays ont réaffirmé leur intention de mener une lutte sans concession aux trafiquants de drogue. C'était un dossier brûlant de sa présidence. Washington n'avait aucune envie de se retrouver avec un narco-État à sa porte. « Quel rapport avec toi ?» demanda Madeline. « Le blanchiment ?»« Il y a 15 ans, lors de mon année d'études en Californie, j'ai rencontré Jezebel Cortez sur les bancs de UCLA. La fille de ce chef de cartel ? Il y a son nom partout dans les journaux à cause de son procès. Nous sommes restés en contact, nous avions en commun un passé familial assez lourd. Entre enfants de criminels, on se comprenait. Tellement bien que vous avez chacun repris le flambeau de vos pères respectifs. » Jezebel n'a pas directement de sang sur les mains. C'était la comptable de l'organisation. Une executive woman, discrète et intelligente, qui, pendant des années, a blanchi les millions de la drogue en les recyclant dans des activités légales. Tu as une façon assez sidérante de présenter les choses. Au fil des années, avec l'intensification de la lutte contre l'argent sale, il est devenu plus difficile pour les narcos de blanchir leurs dollars via les banques et les paradis fiscaux. Jezebel a été obligée de se tourner vers d'autres activités et d'autres intermédiaires. C'est là qu'elle a fait appel à toi. Ouais. Pendant 5 ans, j'ai investi pour son compte dans l'immobilier et l'hôtellerie. Je savais que les agents du fisc américain essayaient de la faire tomber. Mais nous étions prudents. Lorsqu'Alice m'a parlé du programme de protection des témoins, j'ai demandé à mon avocat de prendre contact avec le bureau d'enquête de l'IRS, le fisc américain. Tu leur as proposé un marché ? Mon impunité et une nouvelle identité pour Alice et moi contre mon témoignage pour faire tomber Jezebel Cortez. Il tenait absolument à l'arrêter aux États-Unis pour pouvoir saisir ses biens. Des comptes bancaires, une centaine d'appartements, des complexes hôteliers, des bureaux de change et des agences immobilières dans toute la Californie. Ils ont accepté facilement ? Non. Mais le Congrès s'apprêtait à voter une aide massive d'$1 milliard à destination du Mexique. Le FBI avait besoin d'une arrestation symbolique pour faire passer la mesure dans l'opinion publique. L'affaire est remontée jusqu'à l'attorney général, qui a fini par trouver un accord avec le MI6. Les services secrets britanniques. Ce sont eux qui ont exfiltré Alice en faisant croire à un enlèvement. Il était convenu que je la rejoindrais après. Madeline se sentit soudain totalement démunie. Pendant des mois, elle avait essayé de résoudre une enquête que l'intelligence service prenait soin d'étouffer. Tout s'expliquait. Les caméras de surveillance défectueuses, l'absence d'indices, les témoignages bidons et contradictoires. Elle aurait pu enquêter pendant 10 ans, elle n'aurait pas avancé d'un iota. Ou alors, elle aurait fini comme Jim, suicidée à son bureau. Une rage impuissante s'empara de Madeline. Elle tenta en vain de faire taire sa colère.
« Pourquoi tu m'as fait ça, Danny? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu la cherchais? Pourquoi m'avoir envoyé son cœur ?»
À peine arrivée à Manhattan, Alice est devenue réfractaire aux médicaments. Son insuffisance cardiaque a empiré. J'étais très inquiet. Elle était seule, elle était de plus en plus souvent fatiguée, multipliait les grippes et les bronchites. Seule une transplantation pouvait la sauver. J'ai fait pression sur le FBI. Pas question de témoigner si ma fille mourait. Ils se sont débrouillés pour l'inscrire sur la liste des receveurs prioritaires et l'opération s'est déroulée très vite, dans un hôpital new-yorkais. Ça n'a pas été une période facile pour elle.
« Mais pourquoi m'avoir envoyé son cœur ?» insista Madeline.
« Ce n'est pas moi qui te l'ai envoyé, mais ceux qui nous protégeaient. »«
Parce que tu devenais gênante, Madeline, »
avoua-t-il de sa voix rocailleuse, abîmée par le tabac. « Tu remuais ciel et terre pour retrouver Alice. Tu allais finir par faire le lien avec moi. » Le MI6 a paniqué. Ce sont eux qui ont eu l'idée du cœur pour clore ce dossier.
Quel rôle a joué Bishop?
Bishop, c'est le hasard. Les services secrets savaient bien qu'un jour ou l'autre, un tordu s'accuserait du crime d'Alice. C'est seulement venu plus vite que prévu. Ensuite, comme convenu, quelques mois après sa disparition, j'ai mis en scène ma propre mort et je l'ai rejointe à New York.
Tu as tué ton frère?
Non, Johnny s'est tué lui-même. Tu le connaissais, c'était un zombie rongé par la dope, un malade mental et un assassin. J'ai fait des choix, et Alice était ma priorité. Pour ceux qui agissent, il y a toujours un prix à payer.
Épargne-moi ton discours, je le connais. Et Jonathan, comment est-il tombé sur vous?
Pendant les vacances de Noël qui ont suivi, Alice et moi sommes allés passer quelques jours de vacances sur la Côte d'Azur. Après son opération, Alice n'avait pas pu s'empêcher de taper son propre nom sur les moteurs de recherche pour voir la tournure que prenait l'enquête sur son enlèvement. Elle avait trouvé des articles sur toi, sur ta tentative de suicide. Elle voulait qu'on te mette dans la confidence, mais Blythe Blake, la marshal chargée de notre surveillance, avait refusé. Alice l'avait mal pris. À notre arrivée en France, elle a fugué pour aller te voir à Paris, mais une fois dans la capitale, elle y a renoncé pour ne pas nous mettre en danger. Et c'est là qu'elle est tombée sur Jonathan l'Empereur. Le cœur de Madeline se serra. Non seulement Alice connaissait son existence, mais elle avait cherché à prendre contact avec elle. À partir de cette époque, le FBI et la police des douanes avaient vos deux noms dans leurs fichiers. Et une alerte se déclenchait automatiquement lorsque vous vous déplaciez sur le sol américain. Hier soir, on a informé Blythe Blake que vous étiez tous les deux à New York. Ça ne pouvait pas être un hasard. Je lui ai demandé de mettre au point un stratagème pour te faire venir ici.
Pour me faire taire?
Non, Madeline. Pour que tu m'aides.
T'aider à quoi faire?
À retrouver Alice. Aménagé comme un loft, l'appartement surplombait le garage et les quais. Le front collé à la baie vitrée, l'agent Blythe Blake ne quittait pas des yeux Danny et Madeline. La marshal avait sommairement répondu aux questions de Jonathan et restait tout entière concentrée sur sa tâche, surveiller et protéger le témoin. Le français détaillait cette femme étrange à la beauté gracieuse et aristocratique. Elle avait la blondeur et l'élégance froide des héroïnes hitchcockiennes. Taille de guêpe, treguine noire, cuissard de lacets et perfecto en cuir ouvert sur un col roulé. De petites barrettes ramenaient ses cheveux en un chignon sophistiqué. Lorsqu'on la regardait sur son bon profil, on ne pouvait qu'être séduit par la finesse de ses traits et son regard délicatement souligné. Même sa cicatrice avait quelque chose de fascinant. Loin de la défigurer, la balafre qui outrageait son visage lui donnait un côté femme fatale que certains hommes devaient trouver excitant. « On doit souvent vous poser la question... » commença-t-il. Tout en braquant ses jumelles vers Danny, elle répondit à Jonathan d'une voix monocorde. « Un éclat d'obus en Irak dans le triangle de la mort. 3 millimètres à côté et je perdais mon œil. » « C'était quand ? » Il y a 8 ans, j'étais engagé volontaire. Si c'était à refaire, je le referais. Vous êtes resté longtemps dans l'armée ?
Je suis un agent gouvernemental. Mon dossier est confidentiel.
Comme il insista, elle finit par lâcher.
J'ai quitté les Marines après ma blessure. Je suis resté 2 ans à Quantico, puis j'ai effectué des missions undercover au sein de la DEA avant d'être détaché dans le corps des marshals.
C'était où ces missions ?
Écoutez, mon petit vieux, c'est moi qui pose des questions, ok ?
C'est ce que vous répondez dans les soirées lorsqu'un type s'intéresse à vous ?
Elle s'exaspéra. Nous ne sommes pas dans une soirée, et pour votre information, vous n'êtes pas du tout mon genre.
C'est quoi votre genre ? Des mecs comme Doyle ?
Pourquoi dites-vous ça ?
Vous vous inquiétez pour votre copine ? Et vous, ça vous fait triper les assassins ?
Plus que les pères de famille, oui,
le provoqua-t-elle.
Mais si vous voulez tout savoir, mon job est de surveiller Doyle, pas de coucher avec lui.
Oreillette greffée à l'oreille, elle aboya quelques instructions pour ordonner aux deux cerbères de resserrer leur protection.
Vous pensez que Danny peut se faire buter par les Mexicains ?
Ce n'est pas impossible, mais je ne le crois pas un seul instant.
Pourquoi ?
Parce que d'une certaine façon, il a déjà témoigné.
Cette fois, Jonathan était perdu. Il y a 5 minutes, vous m'avez dit que son audition était prévue pour la semaine prochaine.
Blythe précisa ses explications.
Comme la loi le permet dans ce genre de situation, Danny a enregistré sa déposition avant même le début du procès. Un témoignage filmé en présence d'un juge et d'un avocat qui accable Jezebel Cortés.
Jonathan commençait à comprendre.
Donc, même si Danny était tué aujourd'hui, cette bande serait suffisante pour faire condamner la trafiquante, confirma Blythe. Le seul espoir du cartel serait que Danny change sa version le jour du procès.
Mais pourquoi ferait-il une chose pareille ?
À cause de ça, répondit-elle.
À l'aide d'une télécommande, elle alluma un grand écran plat accroché au mur et lança une vidéo.